Robin, la lucarne d'un vieux garçon. Il s'est passé bien des années, depuis que je suis placé les convenances de ma vie dans un espace qui semble étroit, mais dont il doit suffire, puisque mon existence se déroule dans la douceur et dans ma propre satisfaction. Mon bonheur se trouve au milieu de mes livres, dans l'attachement de mon vieux domestique et dans les caresses de mon chien fidèle. Cependant, il y a un autre sujet de réjouissance, et qui ne sont pas les moins vives ni les moins durables. C'est ma lucarne. Lecteur, qui que tu puisses être, tu vas rire probablement quand tu sauras que la seule vue que j'ai de ma lucarne, c'est un grenier habité par la classe la plus misérable, et que depuis 15 ans, j'ai passé une partie de chaque jour à examiner leur existence. Mais avant de condamner ce que tu appelleras ma folie, vois quelle source immense de leçons précieuses l'aspect continuel du malheur doit présenter à celui qui réfléchit, et quel champ à parcourir pour l'être qui fait consister son bonheur à faire du bien. Riche, orgueilleux, dissipateur, égoïste, philosophe et avare, venez, venez à ma lucarne, et vous saurez ce qu'est la misère vue de près. Bon, votre cœur se serrera devant la vue des vraies infortunes. Pour vous, gens du monde, vous y trouverez des expériences pour vos cœurs blasés, et peut-être aurez-vous plus de douces sensations que celles que vous procurent les sociétés où presque tout n'est qu'égoïsme. Et peut-être vous ferez naître en vous des émotions nouvelles, celles de la reconnaissance. Dimanche. Voici 3 semaines aujourd'hui que je n'ai pas fait ma promenade habituelle, et depuis 15 jours, le grenier, ma grande ressource, est inhabité. J'ai lu l'histoire d'un homme qui adoucissait les douleurs de sa captivité en étudiant les mouvements d'une souris, et qui, durant l'absence de cette petite bête, se réjouissait à l'idée d'en avoir une autre. Eh bien, c'est à peu près de la même manière que chaque jour, je regarde ma lucarne dans l'anxiété de distinguer quels nouveaux hôtes dans le grenier vis-à-vis. Quant aux scènes dont j'ai déjà été témoin, je ne sais trop comment vous les raconter. Hélas, les afflictions des pauvres diffèrent grandement de celles que l'imagination commune aime à créer. Jacques, mon domestique, entre et interrompt mes réflexions philosophiques. Il m'annonce un nouveau locataire pour le petit grenier. Voyons donc ce que la fortune nous enverra. Lundi. Vraiment, oui, voici une nouvelle personne. Qui peut-elle être? Gracieuse, intéressante, si jeune aussi. Oh, elle semble n'avoir pas plus de 17 ans. Et néanmoins, Les fleurs de la jeunesse sont déjà fanées sur cette figure qui respire la mélancolie. Malcarne est placé de telle façon que je puis l'examiner sans en être vu moi-même. Évidemment, elle n'est pas née pour habiter un grenier. Et dans un âge aussi tendre, qui peut l'avoir réduite? Peut-être la corruption. Mais non, chassons cette idée. Ses regards sont trop purs. 10 heures du soir. Oh, jamais je ne vais à ma fenêtre si souvent. Je crains bien que mes doutes ne soient trop bien fondés. Cette fille n'a fait durant tout le jour qu'écrire une lettre. Cela me paraît louche, doublement louche. Il y avait quelque chose de je ne sais quoi dans la manière dont elle se couvrit le visage après l'avoir fini, puis la vitesse avec laquelle elle sortit quand elle l'eut cacheté, me persuade plus qu'à demi qu'elle n'est pas ce que j'espérais. Mardi. Je crois qu'après tout, je ne suis qu'un médisant vieux radoteur. Elle s'est occupée ce matin à mettre en ordre son petit appartement et après, elle s'assit, prit un livre et d'après le maintien recueilli de la jeune fille en le lisant, ce livre me semble être un livre de prière. Oh, voilà qui est mieux. Mais pourquoi ne travaille-t-elle pas? Pauvre fille. La vue de son dîner a complètement dérangé le mien. Une croûte de pain et un verre d'eau, innocente ou coupable. Je lui dois assistance. Dans tous les cas, je dois l'empêcher de se plonger plus avant dans le vice. Je me jetterais volontiers la tête contre le mur pour y avoir jamais logé une pensée injurieuse à cette jeune fille. Je serais vraiment, et comme j'allais écrire ceci, je m'arrêtai pour jeter un regard sur elle. Je la vis se lever tout à coup, et je crus même l'entendre pousser un cri à la vue d'un élégant et fashionable qui entrait dans le même instant. Oh, que n'aurais-je pas donné pour l'entendre aussi bien que je la voyais de ma fenêtre? Leur geste, cependant, était assez expressif. J'imaginais même pouvoir entendre chaque mot de l'impertinent qui lui parlait dans une attitude suppliante. Enfin, il s'agenouille. Qu'elle était belle en le repoussant. Il montra le chétif repas qui l'avait empêché de finir. Oui, sans doute qu'il faisait un contraste avec la superfluité qu'elle aurait et qu'elle pouvait acquérir au prix de l'infamie. Combien je donnerais pour son portrait dans ce moment, son air d'une calme sévérité impose plus que des volumes de reproches. Alors, il lui offrit une bourse. Ciel, elle se lève et Bonne fille, je t'accusais, mais c'était seulement pour cacher ses pleurs. Enfin, il est sorti, et avec l'air de dignité, elle lui ouvre la porte et lui indique de quitter la chambre. C'est bien heureux que ce fat soit dehors. Je pense que, tout vieux que je sois, j'aurais fait quelques scandales. J'enverrai demain ma bonne cousine, Madame Boniface, lui porter quelques secours. Cet imbécile de Jacques est trop maladroit pour cela. Mercredi. Où diable cette fille peut-elle être? Il faut qu'elle soit sortie de bien bonne heure, ce matin, puisque elle n'est pas encore revenue et qu'il va maintenant près de 2 heures. Moi, j'attends Madame Boniface à chaque instant. Mais allez, encore un surcroît de contrariété. Madame Boniface est à la campagne pour plusieurs jours. Midi. Rien encore, mais. Ah! Pas si, elle est au bout de la rue. Elle arrive légèrement en portant un paquet. Pourquoi se retourne-t-elle? Ah, oh, bonne fille, elle aide un aveugle à traverser la rue. Ah, oh, vraiment, je crois avoir trouvé en elle un trésor. Il faut qu'elle ait été à la recherche d'un ouvrage, car elle a cousu toute la journée. Je l'ai regardée plusieurs fois, mais je l'ai toujours vu occupée. 8 heures du soir. Oh, elle a reçu une visite. Une femme bien mise, ma foi. Elle est restée longtemps avec elle. Il me semble que je n'aime pas cette femme. Oh, ce doit être sans cause, puisque rien ne me peut me prévenir contre elle, mais. Et au contraire. Elle lui prend intérêt à cette jeune fille. Cependant, mais je ne peux aimer cette femme. Elle est trop caressante. Et la pauvre fille peut penser ainsi, car je crois avoir observé qu'elle a retiré plusieurs fois sa main de celle de cette femme. Après tout, je crois que c'est parce que elle m'a devancé. Je l'ai vu donner de l'argent à la pauvre petite fille, qui le prend d'un air reconnaissant et modeste. Je suppose qu'elle ne sera pas longtemps ma voisine. Mais il faudra que je sache où elle ira. Oh, si je ne me connaissais pas à l'abri du pouvoir de la bourre, je comprendrais à comprendre que les glaces de l'âge ne m'attendrissent pas. En attendant que je sache le nom de cette jeune fille, je vais lui en donner un. Bon, Jenny, par exemple. Oui, c'est bien, ce nom me plaît. Jenny, oh mon Dieu, combien j'ai aimé une femme de ce nom-là, mais c'est fini, c'est fini. Jeudi. Quel imbécile je dois être pour avoir cru à la vertu d'une femme. Cette fille est perdue, complètement perdue. Quelle preuve elle vient de me donner? Que la fausseté est immédiatement inhérente à la femme. Mais je serai méthodique. Ce matin, tandis que je la regardais travailler, un jeune homme, d'une assez mince apparence, entra dans sa chambre. Elle ne le vit pas plus tôt qu'elle jette son ouvrage à terre et s'avance avec transport dans ses bras. Ensuite, elle s'assoit à ses côtés et de ses deux mains dans les siennes, elle l'écoute en le regardant d'un air si tendre. Se levant soudainement, elle ouvre un tiroir, en tire une bourse, elle lui donne sans doute l'argent qu'elle avait reçu la veille. Le jeune homme eut l'air de refuser, mais elle le lui mit dans les mains en les serrant. Et au moment où il la remerciait d'un baiser, quelqu'un frappa à la porte. Il faut avoir vu dans quelle crainte était ce couple criminel pour s'en faire une idée. On vit clairement par les gestes du vaurien qu'il avait peur d'être vu là. Mais sa maîtresse lui trouva toutefois immédiatement une place secrète. Elle le poussa dans une armoire où à peine supposerait-on qu'un chat puisse se blottir. Infortunée pécheresse, si jeune et si débravée. Cependant, je ne la crois pas endurcie au crime. Si autant qu'elle paraissait si calme en voyant sa nouvelle visite, qui était la même dame que la veille. À mon grand regret, elle ne resta pas longtemps. J'aurais voulu que ce coquin, brisé, le fût au moins. Elle s'en alla. Il s'en alla tout de suite pour dépenser l'argent qu'il avait obtenu de la pauvre malheureuse. 4 heures. Comment se fait-il que cette femme soit revenue et semble parler d'un air fâché à Jenny, qui pleure? Quels sont ses papiers qu'elle offre à la jeune fille qui les refuse? Elle paraît indignée. Ah, mais la menace! Quelle confusion et quelle contenance vulgaire! Elle revient, mais inutilement. Mais quelle peut être la cause de ce changement de manière? A-t-elle découvert le crime de cette malheureuse? Mais non, il n'y en a rien qui démontre une vertueuse indignation. Ses gestes sont ceux d'une femme de bas étage. Vendredi. Demain, Madame Boniface revient, et j'en suis content. Je ne puis me décider à laisser cette pauvre infortunée à son sort. Elle a travaillé tout le jour, quittant seulement son ouvrage quelquefois pour pleurer. Samedi. Je ne sais que penser. Voici 2 garnements d'une allure bien suspecte. Oh, je suis presque sûr que ce sont des huissiers. Ils vont, viennent, regarde souvent à la fenêtre de Jenny. Quoi? La personne qui visite Jenny est maintenant à leur parler. Je dois. Vraiment. Oui, c'est bien elle. Avait-elle l'intention de faire arrêter la jeune fille? Elle le fait cependant. Et les voilà qui entrent tous les trois. Oh, toute voleuse que puisse être cette jeune fille, elle ne sera pas traînée en prison. Tu ne m'arrêteras point, petite espiègle. Je veux faire esquisse de ce que je vis de ma lucarne. Oui, cher lecteur, et toi, aimable lectrice, vous saurez tout. Après avoir jeté ma plume avec rage, je descendis de mon escalier, je traversai la rue avec une agilité que je ne me connaissais pas. Mon vieux domestique qui me suivait immédiatement, ce pauvre Jacques, me croyant fou, se signait et implorait à voix basse tous les saints du paradis. Et j'arrivais au moment où les affreux serviteurs de la justice mettaient leurs mains impures sur la pauvre fille que la terreur semblait avoir glacée. Que demandez-vous à cette jeune fille? Dis-je à l'huissier d'une voix rauque. Oh, dans ce moment, je devais être terrible. Il jeta les yeux interrogatifs sur sa conductrice, qui me répondit en me lançant d'un coup d'œil de vipère. Oh, nous pouvons arranger cela ensemble, mademoiselle et moi, sans votre intervention. Oh non, monsieur, je ne veux rien avoir à faire à démêler avec telle femme. J'espère préfère aller en prison. Vous avez donc emprunté de l'argent à cette femme? Oh, certainement. Non, c'est faux. J'ai cru que cet argent m'était donné. Vous saviez bien à quelles conditions il vous fut offert. Dit la femme horrible, qui, exaspérée à l'idée de voir sa proie sur le point de lui échapper, pensait n'avoir plus de retenue à garder. Oh, ce ne fut pas sans menace que je parvins à lui faire reprendre son argent, et elle me laissa avec la jeune fille, qu'elle disait être tout ce qu'il fallait pour duper un vieux fou de mon espèce. Je vous ai déjà dit que ma lucarne m'a donné des moments bien agréables, mais rien ne peut être comparé au bonheur que m'a procuré la dernière locatrice du petit grenier. On ne doit plus s'étonner de ce que je ne pouvais regarder Elisa, plus de génie désormais. Sans me sentir attiré vers elle par un mouvement indicible. Néanmoins, cher lecteur, afin que tu ne puisses tout savoir et quelle était la cause, il est nécessaire de se connaître un peu mieux et comme la politesse exige que je montre lui-même l'exemple, je vais te donner quelques éclaircissements. Je serai court, afin que tu ne perdes pas trop vite patience. Je vous ai déjà dit peut-être que pendant les 40 années de ma vie, je cherchais mon propre bonheur en faisant celui des autres. J'éprouverai les plus amères déceptions pour la conduite de ma sœur, qui me tenait lieu de fille, car elle avait 20 ans de moins que moi. J'aimais un libertin qui devait la rendre malheureuse. Je le lui dis, mais sans m'avoir écouté, elle partit avec lui. Je rompis avec elle dans le premier moment de ma colère, et avant qu'elle ne fût apaisée, ma sœur mourut en donnant le jour à une fille. La mort, en mettant fin à mon ressentiment, renouvela mon affliction. Elle laissait aussi un fils âgé de 5 ans. Je me fus chargé des enfants, mais son mari refusa alors seulement de me voir. Il s'éloigna et je perdis leurs traces. Hélas, leur sort fut affreux. Négligés de leur père, qui dissipa son bien au milieu de douteuses débauches, de honteuses débauches, leur enfance et leur jeunesse furent privées des avantages et des plaisirs auxquels ils étaient. Les maladies et la perte de sa fortune amenèrent leur père à la conviction que son caprice et que son injustice envers ses enfants. Mais, hélas, il n'était plus temps. La mort sépara les orphelins. Elisa accepta une place de femme de chambre, et son frère Édouard, n'ayant d'autres ressources que sa plume, espérait, par un effort, pouvoir jouir un jour et retrouver sa sœur, en lui donnant une existence plus douce. Ce fut en vain. Les épargnes seules de la sœur mirent à l'abri de la faim. La fortune avait encore plus épuisé ses coups. La beauté d'Élisa captiva le mari de la personne chez qui elle servait. Alors elle quitta cette famille pour échapper à ses importunités. Mais le misérable, la trouvant inaccessible à la corruption, essayait de la conquérir par la terreur. La vile créature des mains de laquelle je l'ai tirée était son agent. Elle s'était introduite près de la jeune fille et lui offrait de la prendre à son service. Elle l'avait priée d'accepter une légère somme d'argent pour se procurer le nécessaire. Aussitôt qu'elle eut appris qu'elle avait disposé de cet argent, elle fut sûre de sa proie, et au moment où elle allait la saisir, la Providence envoya à Elisa le seul parent qui, en même temps, avait le pouvoir et la volonté de l'aider. Et quand la sorcière sortit, la pauvre jeune fille leva les yeux et d'un air si piteusement reconnaissant qu'il fallait être obtus, comme je le suis, pour croire à son crime. Oh, je sais tout, lui dis-je en l'interrompant, comme elle me remerciait. Je sais tout, je vous ai vu dans les bras de votre amant. Mon amant, Oui, celui à qui vous prodiguiez tant de tendres caresses, celui que vous cachâtes dans une armoire, celui-là même qui vous... Mais c'est mon frère, votre frère. Grand Dieu, est-ce possible? Mais je vous jure, écoutez-moi seulement. Ciel, avec quel bonheur j'entendis cette narration qui me prouva que je ne veux pas être isolé désormais. J'ai retrouvé les deux enfants de ma sœur. Je n'ai pas besoin de dire que les malheurs de ces chers amis sont terminés et que, malgré ma déclaration de ne plus chercher mes jouissances dans celles des autres, je ne puis nier que mon imagination se berce encore du plaisir de les rendre heureux sur mes vieux jours. Je vais résider à la campagne, mais je n'aurai plus de lucarne, pour deux raisons. Premièrement, je vois par ma dernière aventure que, quelles que soient les actions que nous sommes les témoins, nous ne pouvons pas entièrement nous convaincre que notre opinion, formée sur des apparences, puisse être fausse. Et secondement, j'ai désormais une amie dont je consulterai le cœur, sûr que ses jugements sont beaucoup plus justes que ce que l'on porte d'une lucarne.